Chemin de vie. Amis auditeurs, bienvenue pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine à l'écoute de notre rubrique Chemin de vie. Chemin de vie est diffusé chaque jour sur votre radio locale, du lundi au vendredi à cette même heure. Au micro, Heidi.
Ainsi que Jean et Daniel à la technique. Aujourd'hui, nous arrivons aux chapitres 11, 12 et 13, qui sont les derniers chapitres du livre de Néhémie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce livre dans la première partie de la Bible appelée Ancien Testament.
Nous y verrons la situation en Palestine, 100 ans après le retour de l'exil à Babylone. La reconstruction du temple de Jérusalem et de ses murailles est terminée. C'est le temps de la dédicace et en même temps, un retour sérieux à la loi de Moïse. Jacques Yosti, notre chroniqueur, nous en parlera après ce chant intitulé « Chacun son destin », interprété par le groupe Pas à Pas.
Poisonnant la cervelle, adoption criminelle, parle-moi d'elle, fais-tu lapidation mentale, irritation.
Quelques dizaines d'années, le gouvernement français a confié aux urbanistes le soin de construire de toutes pièces des villes dites « nouvelles ». J'en connais une qui s'appelle l'île d'Abeau, pas très loin de Lyon. Elle a été conçue avec ses commerces, ses maisons de quartier et le plan d'occupation des sols a même prévu des terrains pour lieux de culte. Ensuite, on a prédéterminé les endroits où seraient bâtis les appartements locatifs et les maisons individuelles. Vu la situation privilégiée de l'île d'Abeau, proche de Lyon, il n'a pas été difficile de trouver du monde pour la peupler. De nos jours, trop de gens veulent habiter dans les grandes villes ou à leur proximité. Si aujourd'hui on se bouscule pour vivre dans Jérusalem, il n'en a pas toujours été ainsi. Une fois que les murailles d'enceinte furent reconstruites sous la conduite de Néhémie, il restait à trouver les familles pour la peupler. Mais comme le septième mois, qui est une époque de rassemblement obligatoire, est arrivé, il a d'abord fallu célébrer la fête des trompettes qui coïncide avec le nouvel an, puis celle des cabanes. À ces deux occasions, la loi de Moïse est lue au peuple par le prêtre Esdras et expliquée par les Lévites, ce qui suscite un renouveau spirituel remarquable. Cette lecture a eu une telle incidence sur les Israélites qu'elle conduit à une très longue prière de repentance où tous, grands et petits, reconnaissent leurs fautes devant l'Éternel et s'engagent par serment à accomplir désormais sa volonté, c'est-à-dire obéir la loi. Tout est bien qui finit bien, donc. Pas tout à fait. Comme j'ai déjà dit, il reste encore à peupler la ville de Jérusalem nouvellement protégée grâce à la restauration de ses murs. Il est en effet nécessaire de la pourvoir d'un nombre suffisant d'hommes capables de la défendre. Maintenant que les solennités du septième mois sont passées, ce problème va être adressé par les responsables du peuple. Je commence à lire le chapitre 11 du livre de Néhémie en compressant tout au long. Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. Pour le reste du peuple, on tira au sort pour faire venir s'établir à Jérusalem, la ville sainte, une famille sur 10. Les 9 autres pouvaient rester dans les autres localités. Verset 1. C'est le jeu du hasard qui oblige un certain nombre de familles à venir s'établir dans la ville sainte. Cette désignation n'a commencé qu'à partir de l'exil, parce que Jérusalem possède le sanctuaire de Dieu. Je continue. Certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Leurs compatriotes les bénirent. Verset 2. Dans ce repeuplement forcé, les riches avaient tout à gagner à vivre dans la ville fortifiée car ils pouvaient faire cultiver leurs terres par des frères indigents. Mais pour les gens du peuple, habiter à Jérusalem n'était pas avantageux car cela les éloignait de leurs terres. C'est pour cela qu'on exprime de la reconnaissance envers ceux qui se portèrent volontaires pour s'établir en ville. Je continue. Dans les villes de Juda habitaient les Israélites, les prêtres, les Lévites, les desservants du temple et les descendants des serviteurs de Salomon, chacun dans sa propriété et sa ville respective. Verset 3. Suit alors les noms de ceux qui sont venus s'installer dans la ville sainte. La liste qui est tirée d'un registre officiel n'est pas inclusive, car Néhémie n'a retenu que les personnages influents. Je continue plus loin. Le reste des Israélites, des prêtres et des Lévites était établi dans toutes les villes de Juda, chacun dans son patrimoine. Les desservants du temple habitaient le quartier de l'Ophel. Versets 20 à 21. Les desservants du temple s'occupaient des corvées. Ils étaient relativement nombreux et avec leurs familles, cela faisait sans doute une population de 20 000 personnes. Contrairement au reste du peuple qui était disséminé partout, ces gens habitaient tous Jérusalem. Je continue. Ils étaient soumis à des ordonnances royales qui réglaient leur activité jour par jour. Pétahia était le délégué du roi pour toutes les affaires civiles. Versets 23-24. Tout le fonctionnement des rapatriés juifs était soumis aux ordonnances du pouvoir impérial perse, mais qui leur était bienveillant. Darius Ier avait déjà montré son intérêt pour le culte israélite, comme ici Artaxerxès. Il y avait donc un magistrat qui était chargé de tenir le roi de Perse au courant de ce qui se passait en Judée. Je continue. D'autres membres de la tribu de Juda s'établirent dans les localités de la campagne. Ils occupèrent ainsi toute la région depuis Beersheba jusqu'à la vallée de Hinnom. Versets 25 à 30. Les descendants de la tribu de Juda s'établirent dans 17 bourgs. Il faut se représenter chacune de ces localités comme un chef-lieu de canton entouré d'un certain territoire. Sur cette étendue se trouvaient des villages de moindre importance appelés littéralement les filles du bourg central. Ces Israélites ont peuplé le sud de la Judée, s'étendant de la vallée de Hinnom, qui touche Jérusalem, jusqu'à Beersheba, 50 km plus loin. Des fouilles archéologiques ont révélé que cette dernière localité fut détruite par le roi assyrien en 701 avant Jésus-Christ pour n'être reconstruite que sous l'Empire perse plus de 2 siècles plus tard. Le reste de ce chapitre donne la liste des bourgs occupés par les descendants de Benjamin, tous situés dans le nord. À l'origine, Jérusalem faisait partie de l'extrême sud du territoire de cette tribu. Nous voici arrivés au chapitre 12 qui continue la liste de ceux qui sont revenus dans le pays de Juda. Je commence à lire en compressant tout au long. Voici la liste des prêtres et des lévites qui revinrent de l'exil, avec Zorobabel et avec Josué. Verset 1. David avait établi l'ordre de rotation des 24 familles sacerdotales pour le service du temple, une fois que celui-ci serait construit. Néhémie dresse la liste de 22 chefs de classe qui étaient revenus au pays sous la conduite de Zorobabel il y avait presque un siècle de cela. Ensuite sont énumérés les Lévites, puis tous les grands prêtres depuis le retour d'exil. Je continue plus loin. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem, on fit venir les Lévites à Jérusalem de toutes les localités où ils habitaient, afin de célébrer l'événement dans la joie, par la louange et par le chant des cantiques, accompagnés par les cymbales, les luths et les lyres. Les musiciens se rassemblèrent du district des alentours de Jérusalem, ainsi que des environs, car il s'était construit des villages autour de Jérusalem. Les prêtres et les lévites accomplirent les rites de purification, tant pour eux-mêmes que pour le peuple, pour les portes et pour la muraille. Versets 27 à 30. La dédicace des murs de Jérusalem a fourni l'occasion d'une immense fête de la musique. Des personnes et des musiciens de tout le pays sont venus en ville pour cette célébration. Mais avant toute réjouissance en l'honneur de l'Éternel, il est indispensable de faire les rites de purification qui s'appliquent aussi bien aux personnes qu'aux objets. Sans que des animaux soient sacrifiés, Dieu n'agréerait pas ces festivités qui ne seraient donc que du vulgaire tapage. Même la bonne volonté, les prières et les actes religieux ne sont que des simagrées aux yeux de l'Éternel si du sang n'est pas versé. Chaque fois que l'homme veut s'approcher de Dieu, même si c'est pour le louer, il doit régler le problème de son péché parce que l'Éternel est trois fois saint. Je continue en compressant. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai deux grands chœurs. Le premier se dirigea du côté droit et marcha sur la muraille vers la porte du fumier. Derrière les choristes venaient la moitié des chefs de Juda, puis venaient des prêtres munis de trompettes qui jouaient des instruments de David. Esdras, le spécialiste de la loi, était à leur tête. Ils continuèrent jusqu'à la porte des eaux, du côté oriental de la ville. Le second chœur partit vers la gauche. Je les suivis avec l'autre moitié du peuple sur le haut de la muraille. On s'arrêta à la porte de la prison. Les deux chœurs prirent place dans le temple de Dieu. Les musiciens faisaient résonner leurs cantiques. Verset 31. C'est là qu'un film vaudrait bien mieux que toutes les explications du monde. Néhémie a rassemblé deux grands chœurs qui sont partis de la porte de la vallée au sud-ouest de la ville et ont marché sur la muraille en sens inverse. La première procession est allée en direction de la porte du fumier, à l'extrême sud-est de l'enceinte, puis a remonté le mur oriental. L'autre procession est allé dans le sens contraire. Les deux chœurs chantaient les louanges de Dieu et se sont rejoints entre la porte des eaux et de la prison pour entrer ensuite ensemble dans le parvis du temple. Je finis ce chapitre. Les gens offrirent ce jour-là de nombreux sacrifices car Dieu leur avait accordé un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants prirent part aux réjouissances et l'on entendait de loin les cris de joie qui retentissaient à Jérusalem. À cette époque, des hommes furent préposés à la surveillance des salles où étaient entreposées les offrandes et les dîmes. On les chargea d'y recueillir les parts attribuées par la loi aux prêtres et aux lévites provenant des champs qui entouraient les villes. En effet, le peuple de Juda se réjouissait de ce que les prêtres et les lévites étaient en fonction de ce qu'ils assuraient le service de leur Dieu et accomplissaient les rites de purification et de ce que les musiciens et les portiers assumaient leurs fonctions conformément aux instructions de David et de son fils Salomon. Versets 43 à 47. Tout le monde était dans la joie en Israël car le culte de l'Éternel fonctionnait parfaitement bien. Voyant cela, le peuple payait volontiers toutes ses dîmes et autres redevances obligatoires selon la loi. Néhémie fut gouverneur de la Judée pendant 12 ans. Après avoir rebâti les murs de la ville sainte, il a organisé la nation juive et rétabli le fonctionnement du culte. Il a repeuplé Jérusalem et les autres villes. Il a aussi dirigé la dédicace solennelle de la muraille et réorganisé la collecte des offrandes et des dîmes. Il a également dressé la liste des gens qui ont marqué son époque. Ces suites de noms sont quelque peu rébarbatives malgré leur intérêt historique certain. Suite à cela, Néhémie est retourné en Perse auprès de l'empereur. Durant son absence de plusieurs années, l'état spirituel du peuple juif s'est considérablement dégradé. Lorsqu'il revint à Jérusalem, une tâche ardue l'attendait. C'est ce qui nous est raconté dans le dernier chapitre du livre de Néhémie que je commence à lire en compressant tout au long. À cette époque, au cours d'une lecture du livre de Moïse en présence du peuple, on y trouva écrit que « ni l'Ammonite ni le Moabite ne seraient jamais admis dans la communauté de Dieu ». Dès que l'on eut entendu le texte de cette loi, on exclut tous les étrangers de la communauté d'Israël. Verset 1. Dès son retour en Judée, Néhémie fait lire la loi, le livre du Deutéronome pour être exact, ce qui exerce un effet immédiat sur le peuple. Je continue. Avant cette décision, le prêtre Éliashib, chargé de la responsabilité des salles du temple et proche parent de Tobia, avait mis à la disposition de ce dernier une grande chambre. Verset 4. Le grand prêtre s'était opposé aux réformes de Néhémie et n'avait pas été parmi les signataires du serment d'allégeance à l'Éternel. Il avait introduit un loup dans la bergerie, étant parent par alliance avec ce Tobia, individu peu recommandable et de plus un ammonite qui aurait dû être exclu d'office de l'assemblée juive. Au lieu de cela, le grand prêtre lui a fait construire un gentil appartement dans une partie du temple. Je continue plus loin. J'étais absent de Jérusalem quand cela eut lieu, car j'étais retourné auprès d'Artaxerxès. À la fin de l'année, je sollicitais de l'empereur un nouveau congé et je retournais à Jérusalem. Là, je me rendis compte du mal qu'avait fait Éliashib. J'en fus très irrité et je jetai hors de la pièce tous les objets qui appartenaient à Tobia. Puis je donnai ordre de procéder au rite de purification pour les salles et j'y fis remettre les objets du temple. Versets 6 à 9. Néhémie exprime son indignation et passe à l'action. Il jette Tobia et, selon l'enseignement de la loi, il fait procéder à la purification cérémonielle de toutes les salles occupées par ce renard. Je continue. J'appris aussi que les parts des Lévites ne leur avaient pas été remises et qu'ils s'étaient retirés chacun sur ses terres. Aussi, je fis des reproches aux chefs du peuple, je leur dis. Pourquoi le temple de Dieu est-il laissé à l'abandon? Je rassemblai les Lévites et les musiciens et je leur fis reprendre leurs fonctions. Alors tout le peuple de Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Versets 10 à 12. Cette situation est étonnante parce que les responsables du peuple s'étaient formellement engagés devant Dieu disant « Nous ne négligerons pas le temple de notre Dieu. » Fin de citation. Mais ce furent des paroles en l'air. Ne recevant plus de salaire, les Lévites avaient déserté leur poste afin de pourvoir à leur subsistance par le travail de la terre. Leur situation précaire, dépendante de la charité de leurs compatriotes, explique pourquoi peu d'entre eux étaient revenus de Perse. Néhémie rétablit les choses comme elles se doivent. Je continue. Je confiais l'intendance des magasins au prêtre Shelemia, aux spécialistes de la loi Tsadok et à Pédaïa, l'un des Lévites. je leur donnais pour les assister Anan, car c'étaient tous des hommes que l'on considérait comme dignes de confiance. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, pour tout cela, et n'oublie pas tout ce que j'ai fidèlement accompli pour ton temple et pour son culte. » Verset 13. Néhémie invoque Dieu et sa bénédiction sur tout ce qu'il fait. Sensible au « qu'en dira-t-on » dans les questions d'argent, il confie l'intendance à quatre hommes de confiance, un prêtre, un théologien, un lévite et un homme du peuple. Plus tard, l'apôtre Paul agira avec la même sagesse. Je continue. « À la même époque, je remarquai en Juda un jour de sabbat des gens qui foulaient du raisin au pressoir, d'autres qui rentraient des gerbes, les chargeaient sur des ânes et transportaient toutes sortes de fardeaux pour les amener à Jérusalem en plein jour de repos. Je leur fis des reproches. Il y avait aussi des gens de Tyr qui s'étaient installés à Jérusalem. Ils y faisaient venir du poisson et toutes sortes d'autres marchandises pour les vendre aux Judéens et à Jérusalem le jour du sabbat. Je fis des reproches aux notables de Juda et je leur dis, « Comment pouvez-vous laisser faire un si grand mal et profaner ainsi le jour du sabbat ?»« C'est exactement ainsi que vos ancêtres ont agi, et c'est bien à cause de cela que notre Dieu a fait venir ses malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous, par votre manque de respect du jour de sabbat, vous allez encore aggraver sa colère contre Israël. » Puis je donnai ordre de fermer les portes de Jérusalem dès la tombée de la nuit, avant le début du jour de sabbat, et j'interdis de les ouvrir avant que ce jour ne soit passé. Puis j'ordonnai aux Lévites d'accomplir les rites de purification et de venir surveiller les portes pour que le caractère sacré du jour du sabbat soit respecté. De cela aussi, souviens-toi en ma faveur, ô mon Dieu, et fais-moi grâce dans ton immense bonté. » Versets 15 à 22. Néhémie doit faire face à une succession de problèmes graves. Les Tyriens, gens de la mer, vendaient leurs poissons sous forme salée, fumée ou séchée. Ils constituaient un élément important de la nourriture des Israélites. Je continue. « À cette même époque, je constatais également que des Judéens avaient épousé des femmes étrangères. Je pris ses compatriotes à partie et j'appelai la malédiction sur eux. Je battis même quelques-uns d'entre eux et je leur arrachai les cheveux, puis je leur fis prêter serment au nom de Dieu en disant, « Vous ne donnerez pas vos filles à des fils d'étrangers et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous-même. N'est-ce pas précisément ce genre d'union qui a entraîné Salomon, roi d'Israël, dans le péché ?» Lui qui n'avait pas son pareil parmi les rois des grandes nations païennes, qui était aimé de son Dieu, et que Dieu avait établi roi sur tout Israël, et pourtant, même lui fut entraîné dans le péché par les femmes étrangères. Faut-il donc entendre dire de vous que vous commettez ce grand mal et que vous êtes infidèle à notre Dieu en épousant des femmes étrangères ? Versets 23-27. La situation était similaire à celle qu'Esdras avait trouvée 25 ans plus tôt. Au grand mot, les grands remèdes. Néhémie prend les mesures extrêmes qui s'imposent. Je continue plus loin et finis ce livre. Souviens-toi de ces gens, ô mon Dieu, qui ont déshonoré la fonction sacerdotale et ton alliance avec les prêtres et les lévites. Je les purifiais donc de tout élément étranger et je remis en vigueur les règlements que devaient observer les prêtres et les lévites, chacun dans son service. Versets 29 à 31. Même des prêtres s'étaient mariés avec des étrangères, ce qui était très grave au regard de la loi. Néhémie a eu un rôle décisif dans la restauration du peuple juif, aussi bien physique que spirituel. La purification de leur cœur s'avérant son combat le plus difficile. Mais grâce à ses interventions énergiques et sa grande confiance en Dieu, il devint un serviteur exemplaire de l'Éternel et un modèle à suivre.
Depuis du mur, des poids dans les yeux innocents. des hommes et des femmes différents vivant malheureux. Tu comprendras que la seule issue est Jésus pour échapper à ce désarroi. Seul, rien ne pourra que briller pour toutes ces vies qui se perdent. Oui, seul, il devra rester fort et garder foi en celui qui a tout créé. Alors crois qu'il a donné sa vie pour toi.
C'est le groupe Authentique qui a interprété Lueur d'espoir. Pour nous, il est déjà le temps de prendre congé de vous, amis auditeurs. Ceux parmi vous qui aimeraient nous contacter, soit pour obtenir le texte de ce jour, soit simplement pour poser des questions, peuvent le faire en appelant le 0820 200 628. C'est un numéro Indigo. 0820 200 628.
N'oubliez pas de visiter notre site internet chemindevie.info. Chemins au pluriel et le tout en un seul mot, chemindevie.info. Voilà, nous espérons vous retrouver demain à la même heure. Au revoir à tous.
À demain.